Vous écoutez RTL.
Et 14h03 sur RTL, on retrouve nos amis de la curiosité. Bonjour.
Bonjour Christelle. On est prêts, on est en studio devant nos micros. Jusqu'à c'est gentil,
la
jusqu'à
15h. La synchronisation du bonjour Christelle, c'est
fou, c'est un métier.
Une heure
de curiosité. Oui, puis on s'interrompt bien, ça c'est notre spécialité aussi. Vous voyez, on n'est pas parfait.
Je vous laisse finir la phrase. Allez, allons-y.
Allez, une heure de curiosité, de récits, d'histoires vraies, de secrets, de révélations avec, vous l'avez entendu, Thomas Hugues.
Salut Sidonie, bonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, vers 14h30, on va cultiver des légumes grâce à un maraîcher bio. Il va aussi nous apprendre à choisir les bons produits au supermarché et à respecter les saisons. Ça semble évident et pourtant, quand vous mangez des tomates toute l'année, forcément, il y a comme un défaut.
Et tout de suite, sur RTL, dans la curiosité, les secrets d'un sourire éternel, celui de la Joconde.
La curiosité est un vilain défaut.
Wow, l'anagramme, c'est bien ça. Une fois décodé, cela donne Leonardo da Vinci, The Mona Lisa.
Mais attendez, la Joconde est là, juste derrière. RTL.
Le sourire de Mona Lisa est en basse fréquence spatiale. L'horizon est considérablement plus bas à gauche qu'à droite.
Pourquoi ?
Et regardez là, elle paraît plus grande à gauche.
Thomas Hugues.
La tradition veut que le côté gauche représente le féminin et le droit, le masculin.
Sidonie Bonnec.
Il y a du sang.
Comme dans le Da Vinci Code, le film de Ron Howard, notre invité est passionné, fasciné, obsédé par cette Mona Lisa, la Joconde. Bonjour François Divot.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez Merci. Le bienvenu, vous êtes journaliste, animateur de radio et de télévision. Pourquoi elle vous fascine, cette Joconde ?
Alors en fait, comme tout le monde, c'est un tableau qui me fascine. Et ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, c'est un jour où je suis allé au Louvre, il y a quelques années, et où j'ai été frappé de voir à quel point les visiteurs regarder la Joconde à travers le prisme de leur appareil de photo.
Ah mais oui, maintenant ils regardent absolument pas, ils la photographient.
Voilà, exactement. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est ceux qui lui tournent le dos pour faire des selfies et qui, une fois le selfie réalisé, ne se retournent même pas pour la regarder en vrai et partaient. Et je sais pas, ça a trotté dans ma tête et je me suis dit, mais si elle pouvait parler, si elle pouvait écrire, mais elle a tellement vu de choses, qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas raconter ?
Et vous la faites parler, donc, cette voilà. Mona Lisa dans votre livre, édité aux éditions de L'Opportun, Moi, Mona Lisa.
Oui, tout à fait. Et ce que je raconte, c'est sa vie. C'est pas des supputations. C'est vraiment
c'est
ce qu'elle a vécu.
Vraie.
C'est une histoire vraie.
Alors, on va raconter son histoire vraie à Mona Lisa. Et lors d'une conférence de presse là, sur le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, il y a le Premier ministre italien Matteo Salvini, qui a fait croire qu'il allait...
Premier ministre.
Ah oui, vice-premier ministre. Alors, c'est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il a fait croire qu'il essayait de reprendre la Joconde à la France, qu'il était en pleine tractation. Évidemment, c'était une boutade. Mais sérieusement, est-ce que ça pourrait arriver ?
Ah non. Ou alors, ce serait vraiment là un casus belli, puisque la Joconde appartient à la France depuis qu'elle a été vendue par l'héritier de Léonard de Vinci en 1519 à François Ier.
Donc on ne l'a absolument pas volée aux Italiens, cette Joconde.
Non, bien sûr que non. La Joconde appartient à la France.
Quand et comment elle arrive en France ?
Alors ça, c'est un long périple qui s'est déroulé en 1516. C'est François Ier qui était un très jeune roi à l'époque. Il avait une vingtaine d'années et il avait eu l'occasion de rencontrer Léonard de Vinci. Et il avait été fasciné parce qu'il faut rappeler que Léonard de Vinci n'était pas seulement un peintre, mais aussi, et c'était principalement son activité d'ailleurs lorsqu'il était à Florence, c'était un ingénieur hydraulique, c'était un ingénieur militaire. Il concevait des armes, il concevait donc des barrages. Et quand François Ier l'avait rencontré, il avait été absolument fasciné par ce personnage génial. Là, le terme est vraiment justifié. Et François Ier lui a proposé, quelques temps plus tard, de le rejoindre en France, au château d'Amboise. Et donc, il y a eu une traversée qui a duré 3 mois, la traversée des Alpes. Léonard est parti, c'était déjà un monsieur d'un certain âge, parce que surtout pour l'époque, il avait plus de 60 ans.
Et dans son sac à dos, il avait quoi, Léonard de Vinci ? Plusieurs tableaux, dont la Joconde ?
Il y avait 3 tableaux, en fait, dont la Joconde. Voilà, il a emporté 3 tableaux. Et ils ont mis 3 mois, avec l'un de ses assistants et son serviteur, à traverser les Alpes. Et ils sont arrivés, finalement, au château d'Amboise, où François Ier les a accueillis, et surtout a accueilli le maître avec tous les honneurs vraiment qu'on pouvait espérer et que Léonard pouvait espérer. Et François Ier l'a installé juste à côté du château d'Amboise, au manoir du Clou, qu'on connaît maintenant sous le nom de Clos Lucé, qui appartenait à Gonzague-Saint-Brie, à la famille de Gonzague-Saint-Brie.
Qu'on peut visiter d'ailleurs,
c'est
un lieu qui est fascinant, passionnant à visiter.
Et Léonard a vécu 3 années je crois, de bonheur. Ces trois dernières années qui ont été vraiment des années de bonheur.
Mais alors, s'il traverse les Alpes, François Dibault, avec trois tableaux, mais notamment, nous, on se passionne pour la Joconde, c'est pas très encombrant pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au Louvre et de regarder la Joconde alors, en face. C'est un grand ou un petit tableau?
Ça n'est pas un petit tableau, mais ça n'est pas non plus un immense tableau, ouais. Puisque la Joconde mesure exactement, si on va être précis, ouais. 79,4 cm sur 53,4.
Mais d'ailleurs, quand on la découvre au Louvre, moi, quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais surprise de voir cette toute petite toile, parce que je trouve que c'est pas un grand
toile.
Alors, c'est un panneau, voilà. C'est ça, un panneau de bois. Je trouve que c'est vraiment un petit tableau qui est dans un dispositif de sécurité absolument hallucinant. Vous nous le décrivez, François Dibault?
Je peux tout à fait vous le décrire, parce que c'est impressionnant. En fait, il y a un mur entier qui est une vitrine blindée. La porte pèse une tonne. Voilà. Et c'est absolument fascinant quand on sait tout ce qui se passe derrière.
Mais elle est reliée à quelque chose, à Joconde?
Alors, la Joconde est reliée en permanence, si vous voulez, comme un malade en soins intensifs. En fait, on surveille ses constantes en permanence. Puisque derrière cette vitre blindée, il y a un système qui mesure très précisément la température, qui doit être entre 18 et 21 degrés. Il ne faut jamais que ça baisse ou que ça augmente de plus de 3 degrés.
L'humidité,
le taux d'humidité. Et alors, comme la Joconde est peinte sur un panneau de peuplier, c'est un bois particulièrement fragile et donc il faut qu'il y ait un taux d'humidité de 50%. Et puis, il y a aussi la pollution qu'amènent tous les visiteurs malgré tout. Donc, il y a un système d'épuration pour éviter à la Joconde de subir toute cette pollution amenée par les millions de visiteurs qui se succèdent chaque année. Et tout ce dispositif est doublé au cas où l'un tomberait en panne. Et il y a bien sûr, évidemment, un système d'alarme très sophistiqué qui fait que le moindre choc sur cette vitrine fera aussitôt retentir toutes les sirènes. Quoi.
Alors la Joconde de Leonardo de Vinci, on l'estime à peu près à 2 milliards d'euros et tout autant d'hypothèses sur l'identité de cette belle femme, sur les secrets de son sourire, sur ses retouches successives. Il paraît même qu'il y a des lettres dans ses yeux. Mais que veulent-elles dire? Allez, on explore tous ces mystères dans le reste de notre curiosité sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Imaginez qu'un matin, en vous réveillant, vous appreniez que la Joconde a disparu. Eh bien, c'est ce qui est arrivé le 22 août 1911. Ce jour-là, au musée du Louvre, à la place du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, il ne reste que le cadre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde.
Barbara chante La Joconde et on raconte l'histoire de ce tableau, le tableau le plus célèbre au monde avec le journaliste François Dibault. Est-ce que le vol dont on entendait parler, extrait de l'émission Dardar, ce vol de La Joconde en 1911, a joué un rôle, j'imagine que oui, dans la célébrité du tableau?
Ça a joué un rôle essentiel puisque auparavant La Joconde n'était pas un tableau aussi célèbre qu'on pourrait l'imaginer. Ça nous paraît incroyable aujourd'hui, mais lorsque la Joconde a été volée, c'était un tableau parmi d'autres.
Mmh. Voilà. Alors pourquoi elle a été volée si c'était un tableau parmi d'autres?
C'est une très longue histoire et c'est extraordinaire.
On va prendre le temps de la raconter.
Il faut prendre le temps parce que c'est une aventure incroyable. En fait, le vol de la Joconde a été découvert effectivement le 22 août 1911 par un peintre copiste. À l'époque, il y avait beaucoup de peintres copistes qui venaient travailler au Louvre. Et en arrivant, il voit juste, à la place de la Joconde, il voit quatre crochets. Et voit rien d'autre. Donc, il ne s'inquiète pas, parce qu'il y avait un studio photo qui était installé au musée du Louvre à cette époque-là, et en échange de donner des photos gratuitement au musée du Louvre, le studio photo pouvait disposer à sa guise des tableaux.
Donc,
ça aussi, c'était une autre époque.
Ah, ils se disent, ils sont en train de faire des photos.
Ouais. Et au bout de 10 minutes, de la voyant parvenir, il s'inquiète, et puis finalement, branle-bas de combat, on découvre qu'elle n'est pas la photo. Et alors là, c'est la panique. Mais c'est une panique très différente de celle qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Parce que la plupart des responsables du musée du Louvre sont en vacances, on est au mois d'août. Et finalement, on fait une petite visite, on regarde, on ne la trouve pas. Une deuxième visite, mais pas plus poussée, on ne la trouve pas. Et finalement, un secrétaire qui était là et qui était le plus capé, si on peut dire, mais qui n'avait pas une immense responsabilité au musée du Louvre, suggère de faire une visite beaucoup plus poussée. Et là, dans un cagibi, qui donnait accès à un escalier de service, on trouve le cadre et la vitrine de la Joconde. Car depuis quelques années, la Joconde, comme d'autres tableaux particulièrement fragiles, était recouverte d'une vitrine en verre pour les protéger un petit peu.
Donc là, on est sûr qu'il a été volé.
On est sûr qu'il a été volé. Ouais. Et là, c'est la panique absolue. Et à l'époque, pas de télé, pas de radio, pas d'internet. La presse écrite a une puissance considérable. Et la presse écrite, dès le lendemain, commence à faire ses titres sur le vol de la Joconde, car en même temps, ça permettait d'attaquer le gouvernement incapable, évidemment, de protéger les pièces de musée de la France. Et c'est devenu, au fil des jours...
C'est sa première une, en fait, à la Joconde.
Et puis on était au mois d'août, donc pas beaucoup d'actualité.
C'est drôle.
Et donc,
on va
tous
découvrir...
les quotidiens ont mis la Joconde à la une, et la Joconde et l'absence de Joconde ont fait de ce tableau et de ce mot vraiment quelque chose... absolument d'imparable.
François Niveau, qui avait volé cette Joconde ?
Alors, c'est un jeune Italien qui avait été l'un des ouvriers qui, 2 ans auparavant, avait installé les vitrines. Ah. Et en fait, c'était un jeune Italien exalté qui voulait rendre à l'Italie, vous voyez, comme vous parliez tout à l'heure de Matteo Salvini, mais lui, je pense que c'était un trait d'humour. En revanche, Vincenzo Perugia, c'était pas du tout un trait d'humour, il voulait rendre à l'Italie les trésors que la France avait volé à son pays.
Alors que
au départ,
l'avez
il
ne
voulait
dit,
pas voler la Joconde d'ailleurs, il voulait voler un autre tableau, mais il s'est retrouvé devant la Joconde, qui était facilement accessible, d'autant qu'il y avait 4 crochets, mais il faut savoir qu'il suffisait de la soulever.
Oui, parce qu'à l'époque, le Louvre, en fait, c'était un peu une auberge espagnole. On entrait, on sortait, on faisait un peu ce qu'on voulait. C'est pas comme aujourd'hui.
Ah non, non, pas du tout. D'abord, le Louvre était beaucoup, beaucoup plus petit, puisqu'il hébergeait le musée de la Marine, le ministère des Colonies et le ministère des Finances. Et les tableaux n'étaient pas protégés, il n'y avait évidemment pas de système d'alarme. Ouais. Et la seule crainte vraiment qu'on avait, c'était l'incendie.
Mais alors, ce vitrier italien exalté vole la Joconde, est-ce qu'elle a été retrouvée facilement, rapidement ?
Ah ben non, il a fallu 2 ans. Et c'est là aussi ce qui a contribué à la légende de la Joconde et à en faire un tableau hors norme. C'est que la Joconde a occupé vraiment les médias, et puis les médias italiens après, bien sûr, pendant 2 ans. Et c'est là où la Joconde a vraiment gagné ses
sa
lettres
célébrité.
De noblesse et sa célébrité.
Ouais. Comment on l'a retrouvée ?
Alors, on l'a retrouvée parce que Vincenzo Perugia était vraiment un garçon pas très organisé. Et après 2 ans où il l'a gardée chez lui, dans une soupente, vraiment, il a envoyé un courrier à 2 antiquaires, un antiquaire romain et un antiquaire florentin, signé Monsieur Léonard, il faut quand même le faire, il donnait son adresse en poste restante, et il écrivait en disant qu'il était détenteur de la Joconde, que tout le monde connaissait, puisque depuis 2 ans, on ne parlait que de ça dans les journaux, et qu'il entendait la rendre à l'Italie. Alors, le premier antiquaire, le Romain, a compris qu'il avait affaire à un fou. Il n'a même pas répondu, mais le Florentin, qui était plus retors, s'est dit « Ce type est tellement fou que c'est peut-être vrai. » Et là, il y a eu des rendez-vous, et finalement, Perugia est parti. Et un rendez-vous a été organisé avec cet antiquaire qui se trouvait être très ami du patron du musée des Offices. Et voilà, le tableau a été repris. Il est tombé dans la gueule du loup, quoi, Perugia.
Génial.
Qu'il allait toucher une énorme prime et qu'il allait devenir un héros.
Et voilà comment la Joconde est devenue le tableau le plus célèbre au monde. Moi, Mona Lisa, les confidences de la Joconde, c'est le titre de votre livre publié aux éditions de L'Opportun. François Divot, alors on a plein de questions encore à vous poser, notamment sur ce sourire mystérieux. À tout de suite,
pourquoi elle n'a pas de sourcils aussi,
Ah, c'est vrai, elle n'a pas de sourcils.
Oui, c'est étrange. Ouais, oui.
Jusqu'à 15h.
Agence artistique Mediatalent, bonjour.
Allô, Brigitte, c'est Lisa.
Lisa.
Mona Lisa, la Joconde, t'en connais d'autres ?
Ah, pardon, je t'ai pas connue.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues,
Dominique est là.
Salut ma chérie, alors quoi de neuf ?
Bah tu sais bien, j'en peux plus de sourire toute la journée comme une idiote. Tout juste si je fais pas gni 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 gni, j'ai l'impression d'être devenue une peluche géante à Disneyland.
T'exagères, tout le monde aimerait être à ta place au Louvre, 20 000 visiteurs par jour.
Je sais que c'est Mona Lisa Claxon.
Bienvenue sur RTL.
Allô, ça va ?
Les curieux.
Oh, Mona Lisa Claxon.
La Joconde, Mona Lisa, dans l'œil de notre curiosité avec le journaliste François Divot. Mais pourquoi sourit-elle ? Pourquoi a-t-elle ce sourire aussi mystérieux ?
C'est
bien la question qu'on se pose.
C'est toute la question. N'étant pas Léonard, je ne peux pas vous le dire complètement parce qu'il y a tellement d'interprétations.
Est-ce que c'est étonnant que cette femme sourit ?
Alors, voilà.
Est-ce qu'à l'époque,
exactement.
Est-ce qu'au XVIe siècle, parce
vous
que c'est peint,
la bonne question parce
qu'elle a été peinte en 1500 et quelques, c'est ça ?
Eh ben oui, elle a été peinte. En fait, elle a été peinte sur un très long moment puisqu'elle a été peinte entre 1503, date de sa commande, et 1518. Donc voilà. Mais la vraie question, c'est pourquoi sourit-elle? Et ça, c'est une liberté que Léonard a prise, parce qu'à l'époque, sur un portrait, on ne souriait pas. Il y avait des codes très précis à respecter, et ça prouve bien que la Joconde est un tableau hors norme, comme le prouve aussi le fait que Léonard ait travaillé sur ce tableau pendant 14 ans.
Qui a commandé cette Joconde? Pourquoi elle s'appelle comme ça?
Eh bien, tout simplement, c'est Francesco del Giocondo, qui était le mari de Lisa Gherardini, la Joconde.
C'était un notable, Mona Lisa. Monsieur?
Alors, c'était un notable, voilà. Ouais. C'était pas un noble, mais c'était un notable, un marchand de tissus et de soieries de Florence, qui avait énormément de succès dans les affaires et qui a épousé en deuxième noce Lisa Gherardini. Elle avait à peine 16 ans et lui en avait à peine 30. Et ça a été un mariage très vite d'amour. Ils ont eu 5 enfants. Et la jeune Lisa, qui était très modeste, a dû se forcer un petit peu pour devenir une donna. C'est pour ça qu'on l'appelle Mona. C'est Madonna, c'est la contraction de Madonna, ah oui. Une donna en italien, parce que la femme de Giocondo était quelqu'un d'important dans la société florentine.
Donc c'est un homme amoureux qui veut avoir le portrait de sa femme chez lui.
Voilà, il l'aura jamais eu.
Voilà l'histoire de la Joconde, et finalement, il ne touchera jamais le tableau.
Non,
c'est ça.
Il ne l'aura jamais.
Mais pourquoi
Alors ça, on ne sait pas. C'est un des mystères irrésolus. Alors Dieu sait qu'il y a des propositions plus farfelues les unes que les autres de tous les pseudo-experts, parce que alors là, des experts, il y en a beaucoup, mais ils n'ont d'experts vraiment que le mot. On ne sait pas pourquoi. En revanche, quand on regarde le tableau, on comprend que ça n'est pas un portrait comme les autres, et qu'au fil du temps, Léonard, sachant qu'il n'allait pas le remettre à son commanditaire, l'a travaillé autrement qu'un portrait pur et dur.
Alors quels sont justement ces signes du côté extraordinaire de cette Joconde? Alors, je ne sais pas si c'est un signe extraordinaire, mais nous, ce qui nous a frappé avec Sidonie, c'est effectivement l'absence de sourcils.
Ah, l'absence de sourcils qui pendant très longtemps a fait penser justement à certains prétendus experts que la Joconde était malade et souffrait d'une kératose. En fait, on sait, grâce aux procédés très poussés, les procédés scientifiques, les scanners, on sait maintenant que, en fait, ça a été découvert en 2004, les sourcils ont été effacés à la fin du XVIe siècle. Mais à l'origine, la Joconde avait des sourcils. Pourquoi ont-ils été effacés? Parce qu'à la fin du XVIe siècle, c'était la mode pour les femmes de grande qualité de s'épiler les sourcils. Et donc, il y a un inconnu qui, considérant que la Joconde était une femme de qualité, a pris sur lui de lui effacer les sourcils.
Donc c'est pas le choix de Léonard de Vinci.
Non, et quand on regarde la Joconde au spectrogramme, on voit bien la trace des sourcils.
Mais ça paraît fou, ça, François Divot. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues comme ça sur l'œuvre de Léonard de Vinci, qui est mort en 1518.
Il est mort en 1519.
19, pardon.
1519. Il y a, en tout cas, à part les sourcils qui ont été effacés, il y a eu deux fois, en 1907 et en 1914, où une petite retouche à l'aquarelle a été effectuée.
Pour préserver vraiment l'œuvre.
Alors, la première fois en 1907, c'est parce que le panneau de peuplier était très fragile et il y a une fissure, donc c'était pour camoufler quelques petites choses. Et en 1914, c'était après le vol, où elle avait subi quelques petites attaques.
Est-ce qu'il y a d'autres maladies ou théories fumeuses comme ça, maladies que l'on prête à la Joconde?
Mais la Joconde a toutes les maladies, ce qui est d'ailleurs très amusant quand on sait que pendant très longtemps, elle a été considérée comme l'archétype de la beauté. Oui. Et en fait, tous les médecins, y compris les plus titrés parfois, ont trouvé toutes les maladies à la Joconde.
Moi, mes préférés, c'est quand même le pied beau et Gilles de la Tourette.
Alors, le syndrome de Gilles de la Tourette, il faut quand même le deviner. Rappelons que ça consiste à tenir des propos grossiers. Oui. On a aussi dit qu'elle était édentée, que c'est pour ça qu'elle avait la bouche fermée, que la paupière droite indiquait qu'elle avait un excès de cholestérol. Les psychiatres ont considéré qu'en la regardant, on voyait qu'elle avait une propension à l'épilepsie. Et il y a même des médecins lyonnais qui lui avaient trouvé une paralysie faciale, paralysie des épaules et des bras aussi.
Alors, il paraît qu'elle a des lettres, un code secret dans le regard, la Mona Lisa. On va voir si c'est vrai dans un instant avec vous, François Divot.
Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on va raconter, choisir, cuisiner des légumes grâce à notre invité qui est maraîcher. À tout de suite.
RTL. Je m'appelle Lisa Gherardini, mais vous pouvez m'appeler Mona Lisa. Oui, avec cet accent italien prononcé, parce que je suis née à Florence en 1479.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On dit de moi que je suis l'amante de Leonardo, ou que je suis Leonardo lui-même.
La curiosité est un vilain défaut.
Mona Lisa, jamais une larme, jamais un soupir.
Et Lisa, Lisa et Lio qui chantent Mona Lisa et pas Lisa qui chante Mona Lio, parce que ça voudrait vraiment rien dire.
Oui, plus grand chose, voilà. Mais bon, on peut essayer quand même.
C'est vrai, on dévoile les secrets de Mona Lisa sur RTL avec le journaliste passionnant François Divo et toutes ces plus folles théories qui circulent sur le regard, sur la Joconde, sur son identité et son regard aussi avec des lettres qui se cacheraient dans son iris, des lettres qui composeraient peut-être un message secret.
Alors ça, en fait, c'est une thèse relativement récente puisque ça date de l'époque où les scanners ont été très puissants et ont permis de voir l'invisible. Et alors là, certains ont eu accès donc à ces épreuves et ont prétendu voir un L, un V. Évidemment, Léonard de Vinci, ça va de soi.
Comme c'est bien fait.
Et puis aussi un B, un S, ou un C, ou un E. Alors là, on ne sait plus très bien. certains se sont dit, mais LV, ça peut être LU aussi. Et CE, Luce, la lumière. Mais bien sûr, voyons, c'est la lumière. Bon. Bon, et il y en a beaucoup comme ça. On a dit aussi qu'il y avait un S, que c'était Salai, le nom d'un de ses assistants.
Qu'est-ce qu'on prend pour des lettres, alors, en fait, dans ce tableau de la Joconde ?
Ce sont des craquelures. Et les experts du Louvre, qui, eux, sont tout à fait fiables et sérieux, l'ont expliqué très bien. Et d'ailleurs...
Les craquelures, elles nous donnent son âge, en quelque sorte,
En tout cas, il y a plus de 500 000 craquelures qui sont un peu comme nos empreintes digitales, si vous voulez.
Ah, oui. Ou les rites d'une œuvre d'art.
On peut dire ça, c'est joli. C'est très joli. Voilà, ce sont les rites de Mona Lisa.
Eh ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous publiez ce livre passionnant, Moi, Mona Lisa, les confidences de la Joconde aux éditions de L'Opportun. Et puis on va découvrir que Léonard de Vinci était végétarien. C'est un rapport avec notre sujet.
C'est vrai ça. On va parler des légumes là tout de suite, François Divo.
C'est pour ça que votre émission est vraiment formidable.
Elle est trop bien préparée.
On savait qu'elle était formidable, mais là il y a un enchaînement remarquable.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.